Josiane aime le Seigneur. Elle essaye de vivre sa foi avec cohérence et elle témoigne régulièrement de l'amour de Dieu quand une occasion se présente à elle. Mais voilà, ses collègues de travail ne le prennent pas bien. Et ils ont décidé de lui mener la vie dure. C'est ainsi que jour après jour, Josiane fait face à des moqueries, des railleries, des colibets, parfois même des insultes. Que fait Josiane? Comment réagit-elle? Elle encaisse, elle ne dit rien, elle fait avec, elle supporte. Pourquoi? Parce qu'elle est convaincue que c'est ce que le Seigneur attend d'elle. Le chrétien ne doit-il pas tendre l'autre joue? Hervé aime lui aussi le Seigneur. Il y a quelques décennies, quand le service militaire était encore d'actualité, il a choisi d'être objecteur de conscience. Pourquoi? À cause de ses convictions chrétiennes, qui l'ont amené à être un pacifiste convaincu. Hervé croit que le chrétien est appelé à ne jamais résister aux méchants ou au mal. Ainsi, il pense que toute guerre est mauvaise. Comment pourrait-il justifier la guerre alors que le Seigneur demande de ne pas résister aux méchants? Alors qu'il demande à ses disciples de tendre l'autre joue. Nous avons commencé au début du mois de septembre une série intitulée « Et pourtant, Jésus l'a dit ». Une série où nous abordons des paroles difficiles de Jésus, celles qui sont dures à comprendre, celles qui sont polémiques, celles dont nous ne savons pas toujours quoi faire. Et pourtant, Jésus les a dites. Ce matin, nous abordons déjà le quatrième volet de cette série, après l'appel au pardon, 70 fois, 7 fois, après l'appel à renoncer à soi et à porter sa croix pour suivre Jésus, après l'affirmation par Jésus qu'il est le seul chemin vers le Père, j'aimerais vous proposer de réfléchir à la parole de Jésus qui invite ses disciples à tendre l'autre joue, et précisément dans le texte, à tendre la joue gauche, après avoir été frappé sur la droite. Comment comprendre cette parole qui spontanément nous inquiète, nous fait peur, nous laisse perplexe? Le chrétien doit-il être le paillasson de tous? Le chrétien doit-il être une lavette et se laisser toujours faire? Toujours marcher sur les pieds? Le chrétien ne doit-il jamais faire valoir ses droits? Doit-il être pacifiste au point de ne jamais résister au mal ou au méchant, d'aucune manière que ce soit? Voilà certaines des questions qu'engendre cette parole de Jésus qui invite ses disciples à tendre l'autre joue. Et je vous invite à la lire, ce texte, ce verset, dans son contexte. Ça va s'afficher normalement, très prochainement. Sans doute. Ah, voilà, c'est bon. Matthieu chapitre 5, versets 38 à 42. Et je lis dans la Nouvelle Bible Second. Matthieu chapitre 5, versets 38 à 42. Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas vous opposer au mauvais. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui demande, qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Avant d'arriver au sens de ce verset 39 qui va nous intéresser ce matin, Il faut poser quelques préliminaires. Il faut faire un certain chemin. Et ne pas le faire, c'est s'exposer à mal comprendre et donc à mal appliquer et à mal vivre ce que Jésus dit ici. Et la première chose que j'aimerais souligner concerne les destinataires de cette parole. Qui sont-ils ? Qui est concerné par ce que Jésus dit ici ? Cette parole, nous l'avons dit, se situe dans le sermon sur la montagne, qui commence au début du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Et là, au début du chapitre 5, nous lisons, « Voyant les foules, il, c'est-à-dire Jésus, monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples vinrent à lui. Puis il prit la parole et se mit à les instruire. » L'enseignement du sermon sur la montagne est un enseignement pour les disciples et non pas pour la foule. Bien sûr, la foule n'est pas très loin. Et certains, sans doute, ont entendu ces paroles de Jésus. Mais ce sont les disciples, et les disciples seuls qui sont concernés, c'est eux, dit le texte, que Jésus enseigne ici. Alors par disciples, bien évidemment, il faut considérer le groupe large de personnes qui suivaient Jésus, et pas seulement les 12, hein, c'était un groupe beaucoup plus large. Voyant les foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples vinrent à lui, puis il prit la parole et se mit à les instruire. Pourquoi est-il fondamental de bien comprendre ce point ? De bien comprendre quel est l'auditoire de Jésus ici ? Tout simplement pour éviter les erreurs de casting, pour éviter d'appliquer cet enseignement ou l'enseignement du sermon sur la montagne à des personnes qui ne sont pas concernées par cet enseignement et qui ne sont pas en mesure de vivre les exigences qui sont contenues dans cet enseignement. Et des exigences, il y en a beaucoup dans le sermon sur la montagne. La barre semble déjà bien haute pour nous qui sommes disciples, pour nous qui avons l'Esprit de Dieu, pour nous qui pouvons compter sur son secours. Et elle devient simplement infranchissable, cette barre, pour celle ou celui qui essaye d'y parvenir par ses propres forces, par lui-même. Et c'est vrai aussi d'ailleurs pour le chrétien qui essaierait de vivre et d'obéir à Dieu par ses propres forces, sans dépendre et sans compter sur le secours de Dieu et ses forces pour cela. Cette compréhension de l'auditoire de Jésus nous amène donc à exclure le monde, la société, l'humanité en général comme étant concernée par ce que Jésus dit dans ce sermon sur la montagne. Faire de ces chapitres, Matthieu 5, 6 et 7, des lois, des règles éthiques à suivre en société ou à suivre par les nations est un non-sens, est une folie, est une aberration. Et ça serait trahir le sens du texte et ça serait trahir l'intention de Jésus quand il dit ces choses. Ce sont les disciples qui sont concernés et c'est donc avant tout individuellement et non pas collectivement qu'il faut comprendre notre exigence de Jésus. Notre texte parle du rapport du disciple avec les autres, avec son prochain. La deuxième chose que je voudrais dire dans ces remarques préliminaires concerne l'arrière-plan de ce que Jésus dit ici. Quel est-il ? Il s'agit bien évidemment de l'Ancien Testament, et plus précisément de la loi de Moïse, œil pour œil, dent pour dent, on va y venir, l'arrière-plan de la loi de Moïse, mais aussi de ce que les pharisiens en avait fait. Et c'est ainsi que Jésus dit au verset 38, « Vous avez entendu qu'il a été dit, vous avez entendu dans la loi, mais vous avez aussi entendu vos responsables religieux dire certaines choses. » Jésus s'appuie sur l'existant. Il va partir de la compréhension qu'ont ses disciples de ces choses et il va les redéfinir. Le peuple de la Nouvelle Alliance ne vit plus sous la loi de Moïse et encore moins par la loi de Moïse mal comprise, mal appliquée et mal enseignée par les autorités religieuses de l'époque. Et c'est ainsi que Jésus continue « Mais moi, je vous dis ». Il est celui qui a l'autorité de s'opposer aux interprétations erronées de la loi. Il est celui qui a l'autorité pour redéfinir toutes ces choses. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est celui qui inaugure le royaume de Dieu, parce qu'il est celui qui en définit les contours, parce qu'il est celui qui instaure la nouvelle alliance avec Dieu son Père. Qu'ont-ils entendu dire, les disciples ? Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». De quoi s'agit-il ? Jésus fait ici allusion à ce que l'on appelle la loi du talion, une loi que l'on va retrouver dans plusieurs passages du Pentateuque, des cinq premiers livres de la Bible. En réalité, il y a trois textes principaux, et nous allons les lire, ils sont très courts, pour essayer de prendre au mieux la mesure de cette loi du talion. Exode 21, versets 22 à 25. « Et quand des hommes s'empoigneront et heurteront une femme enceinte, et que l'enfant naîtra sans que malheur arrive, il faudra indemniser comme l'imposera le mari de la femme et payer par arbitrage. Mais si malheur arrive, tu paieras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. » Lévitique 24, versets 19 et 20. « Si un homme provoque une infirmité chez un compatriote, on lui fera ce qu'il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, on provoquera chez lui la même infirmité qu'il a provoqué chez l'autre. » Et puis Deutéronome 19, versets 16 à 21. « S'il se présente contre un homme un faux témoin pour l'accuser de révolte, les deux hommes qui auront ainsi une contestation devant le Seigneur se tiendront devant les prêtres et les juges qui seront en fonction en ces jours-là. Les juges feront des recherches approfondies, ils découvriront que le témoin est un témoin menteur, il a accusé son frère de façon mensongère, vous le traiterez comme il avait l'intention de traiter son frère. Tu ôteras le mal du milieu de toi, le reste des gens en entendra parler et sera dans la crainte, et on cessera de commettre le mal de cette façon au milieu de toi. Tu ne t'attendriras pas vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. » Comment comprendre cette loi dite du talion? Notons premièrement qu'elle apparaît toujours, et on pourrait le démontrer en prenant le contexte de chacun de ces passages, elle apparaît toujours dans le contexte d'une procédure judiciaire. C'est extrêmement important. Cette loi a été donnée à Israël pour que les juges du peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance exercent la justice d'une certaine façon. Elle ne sert donc pas de base à des actions individuelles, mais toujours à des actions judiciaires. Notons ensuite que cette loi du talion a été donnée pour définir la peine encourue par le coupable dans certains cas de figure bien précis. Et que dit-elle ? Elle dit que la peine doit être proportionnelle au crime. La peine doit être proportionnelle au crime. Elle dit que la peine ne doit en aucun cas dépasser le crime. Un œil pour un œil et pas un œil pour une vie. Une dent pour une dent et pas une dent pour un pied, etc. La loi du talion appelait donc à une juste correspondance ou proportionnalité entre la faute et le châtiment. Elle était là pour que les juges adaptent la punition au crime qui avait été commis. Et ainsi, elle répondait aux exigences de la justice de Dieu. On peut noter que dans toutes les démocraties du monde dignes de ce nom, c'est à peu près ce principe-là de la proportionnalité qui est appliqué dans les tribunaux. Notons encore que cette loi du talion a aussi été donnée à Israël pour empêcher le rendu de la justice à titre privé, en recourant à ce qu'on appelle la vendetta. C'est une loi qui était là pour restreindre la vengeance. Alors qu'en est-il de son application ? Comment était appliquée cette loi du talion ? Il est presque certain, écrit John Stott dans son commentaire de ce passage, qu'à l'époque de Jésus, la loi du talion n'était plus appliquée de manière littérale, mais qu'elle avait été remplacée par la pratique juive du paiement d'amende ou de dommages et intérêts. Et il faut ajouter à cette remarque qu'on trouve des traces de cette modification bien avant l'époque de Jésus, et en réalité, déjà dans le livre de l'Exode. En effet, cette modification se trouve immédiatement après les versets que nous avons lus dans le livre de l'Exode. Nous allons les lire dans quelques instants. Et ils établissent que si un homme frappe son serviteur au point de détruire son œil ou de lui casser une dent, il doit le laisser partir plutôt que de perdre son propre œil ou de perdre sa propre dent. C'est en fait ce qu'il méritait par la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Il lui a détruit un œil, il faudrait qu'il s'enlève lui-même un œil. Mais la loi tout de suite derrière montre que ce n'est pas ce qu'il faut faire. L'important, c'est la proportionnalité, c'est la correspondance. Et en réalité, le texte que nous allons lire montre qu'il laissera partir ce serviteur en compensation de l'œil ou de la dent qui a été blessé ou abîmé. Exode, je vous ai mis le texte que nous avons lu avant, et les versets 26 et 27. Et quand un homme frappera l'œil de son serviteur ou l'œil de sa servante et l'abîmera, il les laissera aller libres en compensation de leur œil. Et si c'est une dent de son serviteur ou une dent de sa servante qu'il fait tomber, il les laissera aller libres en compensation de leurs dents. C'est un peu moins barbare. Et à partir de ce texte, qui est là tout de suite, à la suite de la loi du talion, il est fort raisonnable de penser que dans les autres cas également, à l'exception sans doute du meurtre, c'est-à-dire de la vie pour la vie, la peine requise n'était pas infligée physiquement, mais commuée en paiement de dommages et intérêts. C'est donc l'esprit de la loi du talion, son principe de proportionnalité qui était appliqué, et non pas un texte qui était appliqué littéralement à la lettre, tout simplement. Notons enfin qu'à l'époque de Jésus, cette loi du talion était souvent utilisée, on trouve ça dans les écrits des rabbins en particulier, pour justifier la vengeance personnelle. Cette loi était devenue le prétexte pour faire payer à l'autre sous couvert de justice, sous couvert même de proportionnalité, sa faute par un acte de vengeance. Je m'arrange pour que ça se fasse au tribunal, mais ce qui me motive, c'est la vengeance. Donc, ça m'arrange bien qu'il y ait cette loi. Ce n'est pas du tout pour que la justice soit rendue de manière proportionnelle, mais c'est une façon de me venger. Et apparemment, c'était souvent le cas du temps de Jésus. Et Jésus va s'opposer clairement à cela dans notre texte. Il va s'opposer à cela parce que ce n'est pas juste. Il va s'opposer à cela parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que les choses se fassent ainsi. Dieu n'a jamais voulu que les hommes se vengent, ni personnellement, ni par le biais de la justice. D'ailleurs, la loi de Moïse interdisait explicitement la vengeance. Quelle qu'en soit la forme, Lévitique 19, versets 17 et 18, n'aie aucune pensée de haine contre ton frère, mais n'hésite pas à réprimander ton compatriote pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Ne te venge pas et ne sois pas rancunier à l'égard des fils de ton peuple. C'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est moi le Seigneur. Pas de vengeance, aucune. À l'époque de Jésus, cette loi du talion avait donc été largement détournée. Elle servait de prétexte à la vengeance. Proportionnelle peut-être, mais vengeance quand même. Et à l'application, par le moyen de la justice, d'une justice personnelle. Et Jésus va dans notre texte corriger cet esprit revanchard. Et il va corriger la pratique qui l'accompagne. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis, dit Jésus. Alors que dit Jésus? Il dit premièrement de ne pas s'opposer au mauvais. Je vais vous passer les détails, mais il existe ici un débat sur la traduction de ce mot mauvais, qui est ici traduit par mauvais, mais qu'on pourrait aussi traduire par mal. Le mal, M-A-L. J'ai choisi de suivre la NBS, la Nouvelle Bible Seconde, dans sa traduction, qui comprend ici celui qui est mauvais, qui comprend qu'il s'agit ici du méchant, de l'homme qui fait le mal et non pas du mal en général. Pourquoi cette compréhension? Parce qu'elle est cohérente avec le reste des Écritures, qui nous invite à résister au mal, qui nous invite même à résister au diable et il fuira loin de nous. Comment pourrait-il dire ici l'inverse? Ce que Jésus dit ici, donc, ne concerne pas le mal en général, auquel il faut résister, mais la personne mauvaise à qui il demande de ne pas résister dans un contexte bien particulier. Alors, comment comprendre cette non-résistance à laquelle Jésus appelle ses disciples? C'est ici que certains comprennent notre texte comme enseignant la non-résistance sous toutes ses formes, le pacifisme, l'interdiction de la guerre, par exemple, et même, quand on pousse le raisonnement jusqu'au bout, l'interdiction de l'armée, l'interdiction de la police, l'interdiction des magistrats et des tribunaux. Pourquoi? Parce que toutes ces institutions résistent au mal d'une manière ou d'une autre. C'est ainsi que, par exemple, alors j'étais très intéressé de découvrir ça, c'est ainsi que Léon Tolstoï, certains ont peut-être lu de ses ouvrages, le célèbre écrivain russe, comprenait ce texte de l'Évangile. Il écrit dans un livre, ce n'est pas son livre le plus connu, « Quelle est ma foi ?» Il écrit que l'Église a mal compris ce texte de Jésus pendant ses 18 siècles d'histoire et que ce commandement de ne pas résister aux méchants est à prendre au sens propre. Et pour lui, le Christ interdit catégoriquement que les hommes établissent jusqu'à des tribunaux, parce que les tribunaux s'opposent aux méchants et rendent le mal pour le mal. Selon lui, toujours, ce même principe doit être appliqué à la police, doit être appliqué à l'armée. Et selon lui encore, c'est dans l'obéissance au commandement du Christ que tous les hommes, on ne parle pas des disciples, hein, mais que tous les hommes, seront frères, chacun sera en paix avec les autres, alors viendra le royaume de Dieu. Et j'ai été très intéressé de lire que Gandhi s'est très très largement inspiré des pensées et des écrits de Tolstoï, je ne le savais pas. Alors tout ça, c'est au mieux une belle pensée, mais c'est une belle pensée peut-être qui n'a pas de fondement biblique. Parce que Tolstoï oublie, par exemple, que le Nouveau Testament enseigne que l'État est une institution divine qui a pour mission par l'intermédiaire de son pouvoir exécutif, à la fois de punir le malfaiteur, c'est-à-dire de résister au méchant, en lui faisant porter la peine qu'il mérite, et de récompenser ceux qui font le bien. Et ça, nous le trouvons dans ce texte de Romains 13, et il y aurait d'autres textes que l'on pourrait convoquer. Que tout homme, dit l'apôtre Paul, soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu. Et celles qui existent sont établies par lui. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité se rebelle contre l'ordre voulu par Dieu. Et les rebelles attireront la condamnation sur eux-mêmes. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité ? Fais le bien et tu recevras ses éloges, car elle est au service de Dieu pour t'inciter au bien. Mais si tu fais le mal, alors crains, car ce n'est pas en vain qu'elle porte le glaive en punissant. Elle est au service de Dieu pour manifester sa colère envers le malfaiteur. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre, non seulement par crainte de la colère, mais encore par motif de conscience. Je me contenterai de ce passage pour réfuter la compréhension que Tolstoï avait de notre texte de Matthieu 5. Et pour réfuter aussi toutes les variantes qui existent. Hein. Certains ne vont pas aussi loin que Tolstoï et disent, bon, la police et les magistrats d'accord, mais pas l'armée, etc. On peut trouver toutes sortes de variantes. On aurait pu aussi défaire cette compréhension de Tolstoï en se rappelant ce que nous avons dit au début sur l'auditoire de Jésus, et nous rappeler que ce texte concerne des individus et non pas des institutions, et non pas le rapport à des institutions, mais le rapport des disciples à leur prochain. Dans notre texte, après avoir posé le cadre, après avoir posé ce principe de la non-résistance aux méchants, hein, c'est au début du texte, Jésus va illustrer ce principe de trois manières. La première illustration, c'est notre verset 39. C'est celle où Jésus applique ce principe aux relations interpersonnelles. Et c'est là-dessus que nous allons nous concentrer. Je dis juste un mot sur les deux autres illustrations. Au verset 40, Jésus applique ce principe de la non-résistance aux méchants, aux relations sociales arbitrées par le pouvoir judiciaire. Et puis dans la troisième illustration au verset 41, il l'applique aux relations avec le pouvoir au sens large. Juste une précision parce qu'on ne le comprend généralement pas comme ça. Hein. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire un mille, fais-en deux avec lui, qu'est-ce que ça a à voir avec le pouvoir en général ? Il se trouve que ce verset fait très certainement référence à un droit romain de l'époque où ils avaient le droit de réquisitionner n'importe qui pour porter leur fardeau. Et donc, si on demandait à quelqu'un de porter un mille, ben Jésus dit, ben faites-en même un deuxième. C'est la relation au pouvoir de façon générale. Ce sont donc des illustrations que nous avons au verset 39, au verset 40 et au verset 41. Et puisqu'il s'agit d'illustrations, nous devons veiller à ne pas les appliquer littéralement, à ne pas les prendre au pied de la lettre, ce n'est pas leur intention. Ce qui est l'intention de Jésus ici, c'est que nous comprenions le principe et que nous cherchions à le vivre. Notre verset illustre ce principe de la non-résistance aux méchants dans le domaine des relations interpersonnelles. Et il l'illustre dans un contexte très précis. Lequel ? Pas celui de la violence physique, pas celui de la brutalité comme certains le pensent. Il m'a mis une claque, je dois le laisser m'en mettre une autre. On n'est pas dans un contexte de bagarre, c'est pas un contexte de violence dont Jésus parle ici. Il s'agit plutôt du contexte de l'injure, de la provocation et de l'insulte. Et la plupart des commentateurs s'accordent sur ce point. La situation qui est décrite ici est une situation d'insulte et non pas une situation de bagarre ou de violence physique. La gifle dont parle Jésus sur la joue droite est un geste d'insulte. Certains ont avancé pour l'expliquer que la plupart des hommes étant droitiers, une gifle comme une agression physique irait sur la joue gauche. Et dans ce cas, tendre l'autre joue, ça serait tendre la joue droite, mais ce n'est pas ce que dit Jésus. Pour gifler la joue droite, comme c'est le cas dans notre passage, il faut soit être gaucher, soit le faire avec le revers de la main. Et ça, même encore aujourd'hui, hein, donner à quelqu'un une gifle du revers de la main, c'est un geste d'insulte. Et nous trouvons dans les textes rabbiniques que c'était le geste d'insulte par excellence au Moyen-Orient, et il me semble que c'est encore le cas aujourd'hui. Alors il faut maintenant nouer la gerbe. Je vous avais dit qu'il fallait poser beaucoup de choses avant d'en arriver à une compréhension. Quel est le sens de ce que Jésus dit ici, au verset 39, quand il dit que si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends aussi l'autre? Tendre l'autre joue, c'est ne pas riposter à l'insulte. C'est ne pas riposter ou ne pas répondre à la provocation. C'est ne pas répondre à l'agression par l'agression. C'est ne pas me venger quand un mal m'a été fait. Et en agissant ainsi, je brise le cercle de la vengeance, le cercle de la violence sans fin qui caractérise l'humanité depuis le commencement. C'est refuser de suivre les penchants naturels de riposte, de vengeance qui sont dans mon cœur quand j'ai été malmené. C'est donc accepter de mourir à moi-même d'une certaine manière, de mourir à tous ces penchants destructeurs naturels en moi qui sont attachés à ma nature pécheresse. C'est donc vivre conformément à la nouvelle nature que j'ai reçue de Dieu par la foi. C'est faire passer les intérêts de Dieu avant les miens. C'est faire passer sa volonté avant la mienne. C'est montrer que ma dignité d'être humain n'est pas dans ce que l'autre dit de moi, n'est pas dans ce que l'autre pense de moi, mais elle est en Dieu. Elle est en Dieu et dans ce que Dieu dit de moi. C'est être un artisan de paix. C'est aimer son ennemi. Et c'est aimer celui qui me persécute peut-être. Et si nous lisions la suite du texte, et je vous invite à le faire, dans les versets qui suivent, Jésus parle tout de suite après d'aimer son ennemi, de prier pour ceux qui nous persécutent, etc. C'est répondre au mal par le bien. Et cette phrase, répondre au mal par le bien, nous allons la retrouver dans un texte de l'apôtre Paul, au chapitre 12 de son épître aux Romains. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire ce qui est bien devant tous. S'il est possible, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. Ne vous faites pas justice vous-même, bien-aimé, mais laissez place à la colère, c'est la colère de Dieu, car il est écrit, c'est moi qui fais justice, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des braises que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Sois vainqueur du mal par le bien. Tendre l'autre joue, c'est tout ça. Et on peut le décliner encore d'autres manières. C'est être, en agissant ainsi, témoin de Jésus. Imitateur de Jésus, c'est marcher dans ses pas, c'est suivre son exemple. L'apôtre Pierre dit dans son texte de la première épître au chapitre 2, versets 18 à 23, que insulté, il ne rendait pas l'insulte. Serviteurs, soyez soumis avec une profonde crainte à vos maîtres, non seulement aux bons et aux doux, mais aussi aux acariâtres, car c'est une grâce de supporter par respect pour Dieu des peines que l'on souffre injustement. Quelle gloire y a-t-il en effet à supporter les coups si vous avez commis une faute ? Mais si après avoir fait le bien, vous souffrez avec patience, c'est là une grâce aux yeux de Dieu. Or, c'est à cela que vous avez été appelés. Souffrir après avoir fait le bien ? C'est à cela que vous avez été appelés ? Car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, dans sa souffrance ne menaçait pas, mais s'en remettait au juste juge. Tendre l'autre joue, c'est s'en remettre au juste juge. C'est laisser la justice, c'est laisser la rétribution dans les mains de Dieu. C'est décider que Dieu le fera et je lui fais confiance. C'est ce que dit Paul dans ce passage, c'est ce que disait Paul dans le passage de Romains que nous avons lu précédemment. C'est accepter de ne pas se faire justice parce que nous croyons que la justice appartient à Dieu, qui est seul juge. Tendre l'autre joue, c'est, fort de tout ce que nous avons dit, vivre dans la confiance à Dieu. Quand nous sommes insultés en particulier, et c'est fort de tout ce que nous avons dit, vivre dans l'espérance des nouveaux cieux et de la nouvelle terre où la justice habitera. Et c'est en particulier vrai quand nous sommes maltraités. Qu'est-ce que tendre l'autre joue ? C'est tout ça. Et on pourrait continuer à le décliner ainsi, mais je crois qu'on a à peu près dit l'essentiel, sans doute. Mais j'aimerais terminer en disant quelques mots sur ce que ce n'est pas. Tendre l'autre joue, ce n'est pas tout accepter. Ne pas répondre à l'insulte et à la provocation ne veut pas dire qu'il faut laisser le méchant faire tout ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser le méchant tout nous faire. Absolument pas. Et ce n'est pas la pensée de Jésus dans notre texte. Qu'a fait Jésus quand il a été giflé dans le prétoire ? Vous vous souvenez ? Il n'a pas riposté. Il ne s'est pas vengé. Mais il s'est défendu. Et il a même demandé une explication. Jean 18, versets 22 et 23, ces mots, un des gardes qui se trouvait là gifle à Jésus en disant, c'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ? Jésus lui répondit, si j'ai mal parlé, montre en quoi ? Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Tendre l'autre joue, ce n'est pas tout accepter, ce n'est pas se taire, ce n'est pas être le paillasson, ne jamais rien dire et ne jamais rien faire. Après Jésus, prenons l'exemple de Paul. Paul devant le Sanhédrin, que s'est-il passé ? Acte 23, versets 1 à 3, les yeux fixés sur le Sanhédrin, Paul déclara, « Frère, c'est avec une conscience, sans aucun remords, que je me suis conduit envers Dieu jusqu'à ce jour. » Mais le grand prêtre Ananias ordonna à ses assistants de le frapper sur la bouche. C'est pas mal aussi en guise d'insulte ou de... Et Paul lui dit alors, c'est toi que Dieu va frapper, muraille blanchie. Tu sièges pour me juger selon la loi et au mépris de la loi, tu ordonnes qu'on me frappe. Tendre l'autre joue ne veut pas dire qu'il faut tout laisser faire et tout accepter. Ne jamais réagir, ne pas se venger, oui. Ne pas riposter et ne pas perpétuer le cercle de la violence sans fin, oui. Mais il y a bien d'autres choses qui peuvent être faites. Ce n'est donc pas toujours s'écraser. Ce n'est pas, par exemple, laisser les miens se faire agresser, se faire massacrer sans réagir, sans résister, parce que Jésus aurait dit qu'il faut tendre l'autre joue. Ce n'est pas ne rien dire ou ne rien faire quand nous sommes témoins d'un crime, parce qu'il ne faut pas résister au mal ou au méchant. Il y a des lois et nous sommes tenus aussi par les lois du pays dans lequel nous vivons. Ça ne veut pas dire manquer à tous nos autres devoirs parce que nous sommes chrétiens. Ce serait une aberration, n'est-ce pas ? Notre texte ne parle pas de situations de violence physique, mais d'insultes. Ne lui faisons pas dire ce qu'il ne dit pas. Je conclus. Cette parole de Jésus, comme beaucoup d'autres qu'il a dites, est une parole exigeante. C'est même une parole très exigeante. Et elle demande une ferme résolution de notre part. Pour essayer de faire ce que Jésus demande ici. Et elle demande surtout la grâce de Dieu dans notre vie pour y parvenir. Je le disais, essayer d'obéir à Dieu par nos propres forces, c'est tout simplement perdu d'avance. Et en particulier quand nous sommes devant des exigences comme celle-là. Que le Seigneur nous aide chacun à vaincre le mal par le bien. C'est difficile, mais c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est difficile, mais c'est ainsi que nous accomplissons la volonté de celui qui insultait, ne rendait pas l'insulte. Amen. Nous avons dit qu'il faut toute la grâce de Dieu pour obéir à une parole comme celle-là. Il faut le secours de l'Esprit et dans le chant que nous allons chanter maintenant, nous allons dire cela. Nous allons parler de cette œuvre de l'Esprit de Dieu en nous qui nous permet d'accomplir la volonté de Dieu et de marcher en sainteté. Je vous invite à vous lever et pendant le chant, il y aura aussi les boîtes qui circuleront. Dans les rangs, ça sera le temps de l'offrande. Brûle, brûle, flamme ardente. Dans mon cœur.
Bleu.
place pour le temps des annonces. Comme indiqué dans la feuille du mois d'octobre, il n'y aura pas de rencontre de quartier cette semaine, à moins que les groupes l'aient prévu. Elles auront lieu la semaine d'après. Il n'y a donc pas de rencontre de semaine. Alors, je sais qu'il y a un groupe qui se réunit cette semaine le vendredi, mais voilà, ce n'est pas prévu et ça sera la semaine d'après qu'il y aura les rencontres de quartier dans la plupart des groupes. Dimanche prochain, nous aurons un culte avec baptême et le culte sera suivi d'un verre de l'amitié. Donc, prévoyez de rester pour profiter de ce moment de communion fraternelle. Le dimanche d'après, le 12 novembre, il y aura le repas payant d'aide et espoir. La feuille d'inscription est au panneau, il y a une trentaine de noms, on vise au moins une centaine d'inscrits. Donc il faut y aller, c'est aujourd'hui et dimanche prochain, et puis après il faudra qu'on clôt les inscriptions. Donc merci de le faire aujourd'hui, qu'on commence à avoir à peu près une idée des quantités. Ça aidera grandement les cuisiniers, cuisinières qui préparent tout ce que nous allons vous proposer dans ce repas. On vous en dira plus sans doute dans les dimanches qui viennent. Le 17 novembre, vendredi soir, il y aura une assemblée générale de l'Église. Vous avez reçu un courrier, si vous êtes membre de l'Église, vous expliquant en particulier la procédure à suivre pour le vote du renouvellement partiel du Conseil. Vous n'avez pas reçu le mail parce que vous n'avez pas d'adresse électronique, il y a des pouvoirs et il y a des bulletins de vote qui sont au panneau d'affichage. Pour la fête de Noël, il faut y penser, et on y pense et on y travaille depuis un certain temps avec une équipe motivée. On a mis là aussi la barre très haut, mais à peu près comme chaque année. On a besoin de votre aide pour plusieurs détails, et on est en particulier à la recherche de morceaux de tissu assez grands pour faire des costumes. Des costumes qui vont bien pour des personnages du Moyen-Orient, et plutôt des personnages de haut rang, donc des couleurs vives, des choses un peu brillantes, avec des motifs, voilà. Si vous avez du tissu comme ça, je ne sais pas si Alex est là, je ne crois pas, voilà, vous pouvez venir me voir, ou alors c'est Alex Carpentier, vous me le donnez si elle n'est pas là, ou vous lui donnez directement pour cela. Et puis donc, ça c'est le tissu, et ensuite on a besoin de couturiers, couturières. Alors c'est des habits simples, hein, ce n'est pas de la haute couture, mais il faut quand même quelqu'un qui sache un peu faire. Il y a quelques costumes à faire, donc peut-être que deux personnes seraient mieux qu'une. Si vous avez des talents, on en a vraiment besoin. Voilà. Donc là, voir aussi Alexandra, ou me voir moi si elle n'est pas là. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à faire pour Noël, Jean-Pierre? Non? Timothée? C'est bon?
Oui, si on a des grands cartons, vous déposez soit ici, soit chez moi.
D'accord. Donc des grands cartons. Des grands cartons un peu épais à porter ici ou à donner à Timothée. Olivier Perrier, il y avait une annonce à faire. Je vous laisse dire quelques mots.
Oui, j'ai une demande d'aide. C'est un peu insolite, ça ne se fait pas souvent. Mais je sais que tous d'entre vous ont des activités et donnent de leur temps au sein de la paroisse, mais donnent aussi de leur temps pour des associations extérieures. Alors, voilà plusieurs d'entre nous, et il y a encore Mme Gras et Mme Perrier qui peuvent être là aussi ce jour, pour cette occasion, pour vous dire que nous avons une activité sociale à l'intérieur de l'entraide protestante nîmoise. Nous nous occupons des jeunes déshérités de la ville et maintenant en plus des mineurs isolés migrants. C'est-à-dire que notre association d'origine protestante nîmoise héberge, éduque, oriente des mineurs qui sont seuls. Alors, c'est une activité que nous avons pris déjà un certain nombre d'années. Nous avons eu au départ une quarantaine de logements et d'éducation, de nourriture pour ces jeunes. Et ça a pris de l'ampleur et nous arrivons à plus de 180 logements avec plus de 30 personnes. Et pour tout ça, il y a une association dont nous faisons partie qui doit gérer. Et j'aimerais savoir et vous demander si certains d'entre vous pourraient nous rejoindre pour aider parce que le poids commence à être important. Et à titre personnel, ça fait plus de 15 ans que je m'en occupe en tant que financier et président. Et j'aimerais pouvoir passer la main gentiment. Notre ami M. Gras avait accepté de me remplacer, mais a été muté à Manosque et risque d'avoir un peu de difficulté pour être là le plus souvent possible. Je viens tout simplement vous demander si certains d'entre vous acceptent de venir être administrateur. C'est une réunion par trimestre pour nous aider à gérer cette association qui vient en aide aux jeunes déshérités et aux migrants de la ville. Je vous remercie par avance. Vous pouvez nous contacter l'un d'entre nous. Merci.
Merci. Message reçu. Juste pendant le début du culte, on m'a donné un petit papier pour m'informer que Annick Labarbe avait fait une chute et s'était cassé l'épaule. Alors je pense que ça doit être ce matin ou alors peut-être hier. Et elle saura demain si elle va être opérée ou pas. Et elle demande que l'on pense à elle dans la prière. Une petite dernière chose, à moins que quelqu'un ait quelque chose à dire. Maud ? Mais alors, Robert s'est déguisé ? Attends, c'est Robert ou c'est Maud ? Donc des oignons et des... Ah ! Des ails, des os et des pommes de terre, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Un tout petit détail pratique, si vous êtes amené à ouvrir un robinet dans le bâtiment, généralement on ne l'oublie pas, mais à l'extérieur, pour l'arrosage, etc., merci de penser à le fermer. Cette semaine, encore une fois, il y a eu une grosse fuite, un robinet n'avait pas été fermé, le tuyau a cassé, et donc ça a coulé, et on se retrouve avec de grosses factures d'eau, donc merci de veiller à bien fermer les robinets. Ça évitera en partie ce genre de désagrément. Voilà, je vous invite à vous lever pour terminer notre culte avec une parole déjà entendue et que nous voulons prendre avec nous. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire ce qui est bien devant tous. Il est possible pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. Ne vous faites pas justice vous-même, bien-aimé, mais laissez place à la colère, car il est écrit « C'est moi qui fais justice, c'est moi qui paierai de retour », dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des braises que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Très bonne semaine à chacun.